L'architecture, c'est une immense patience. L'architecture moderne, c'est une religion.
Eh bien, on va y mettre les formes tout de suite dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Le Corbusier, on vient de l'entendre, d'architecture donc, de peinture, d'abstraction gestuelle, de modernisme, de fascisme et même de bœuf sur le toit. Avec Jean-Louis Cohen qui signe Le Corbusier, la planète comme chantier, un essai qui revient sur le parcours d'un architecte qui a même construit son nom, Le Corbusier, disparu en juillet 1965. Manu Farine.
Retour sur l'architecte qui le premier travailla à l'échelle du globe et que Marcel Duchamp diagnostiquait comme un cas de ménopause masculin précoce sublimé en coït mental, comme c'est cruel et comme c'est bien dit.
19h30, la chronique revue et corrigée de Thomas Clair ce soir à son programme, le journal des arts, et puis 19h35, plateau dislocation avec Shirley Jaffe, portrait d'une peintre américaine installée en France depuis 1949 pour une abstraction d'abord gestuelle qui passe à la géométrie en 68 et redécouverte à New York dans les années 90 et fêtée depuis. Manu Farine.
Retour sur 70 ans de peinture abstraite et instable pour ce que Shirley Jaffe qualifie de chaos organisé.
Sans oublier la session live du vendredi, extrait. Oui, ce soir, une figure un peu à part dans l'électro, presque de l'électro de chambre, Elsa Béranger.
Oui, c'est Chapelier Fou ce soir pour un titre en direct. On va être entre la performance, l'expérimental, bref, il va nous donner un shoot psychédélique.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagane, mais l'on ouvre d'abord sur le son du jour de Zoé Sfez.
Pour moi, c'est un principe. On interdit pas un film, et c'est inacceptable. Surtout dans un pays comme le Maroc, qui se targue d'être un pays plutôt, disons, démocratique et ouvert au monde, etc., etc. Quand on cède à ce genre de chantage, j'entends des extrémistes religieux, on les grandit d'une certaine manière. Et c'est ça qui est aussi inacceptable en dehors de l'interdiction. Ça veut dire que le pouvoir se soumet, c'est qu'il y a le pire de tout. Cette espèce de censure automatique.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et vous venez de l'avoir au téléphone.
Oui, c'est un son de l'après-midi. Vous entendez le réalisateur Costa Gavras qui m'expliquait pourquoi il a absolument tenu à signer une pétition en faveur du film de Nabil Ayouch, Much Loved, qui est interdit de diffusion au Maroc. Je vous en ai parlé en début de semaine. Le réalisateur franco-marocain s'est attaqué dans ce film à la prostitution au Maroc, qui est une réalité bien présente mais qui reste très taboue dans le royaume. Son film, qui n'avait pas encore de date de sortie au Maroc, a été présenté à Cannes en avant-première dans la quinzaine des réalisateurs. Les extraits ont alors circulé sur Internet, provoquant la fureur de plusieurs dizaines de milliers d'internautes qui refusent de se voir ce sujet porté à l'écran de manière aussi frontale. Parmi eux, plusieurs cheikhs islamistes qui ont menacé de mort le réalisateur et son actrice principale, Loubna Abidar. Dans la foulée et sous la pression, donc, le ministère de la communication du Maroc, puis le centre cinématographique marocain, ont indiqué que le film ne serait pas diffusé dans le pays. Décision d'autant plus arbitraire, selon Nabil Ayouch, qu'elle a été prise au mépris de la procédure habituelle. Une pétition, donc, soutien au réalisateur a été lancé en France. Elle est signée par une trentaine de réalisateurs comme Costa Gavras, mais aussi Stéphane Brisé, les frères Dardenne, Laurent Cantet ou encore Arnaud Desplechin.
Merci Zoé, on se retrouve lundi pour la suite de ce journal de la culture. Alors, bon week-end.
Merci à vous aussi.
Et tout de suite, eh bien, on continue avec Benoît Lagane, le supplément week-end. Benoît.
Et on commence par la séquence du téléspectateur hebdomadaire. Alors, vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, vendredi dernier, nous revenions sur ce que l'on appelle aux États-Unis la période des upfronts, un moment crucial pour l'industrie de la télé, puisqu'il s'agit du moment où les chaînes annoncent leurs programmes aux publicitaires. Et Séverine Barthes, ma correspondante américaine, faisait preuve de pédagogie pour bien nous expliquer l'enjeu de ce système vieux de plus de 50 ans.
Et la semaine dernière, vous coupiez votre correspondante au moment précis où elle nous expliquait que le système se fissurait.
Effectivement, comme dans toute bonne série à suspense, j'ai coupé ma correspondante en plein élan. Le système des upfronts se fissure. Alors après ce suspense insoutenable, voici donc les éclaircissements attendus de Séverine Barthes en ligne depuis la Californie.
Ces derniers jours, on a beaucoup lu dans la presse une remise en cause de la part des publicitaires du modèle des upfronts qui vise à acheter en fait des espaces massivement très très tôt avant de savoir très précisément quel type de public sera devant telle ou telle série. On est sur un marketing plus subtil et sur des changements de visionnage de la part du public qui fait que ce modèle est remis en cause malgré certaines adaptations, notamment la prise en compte dans le calcul de l'audience. Aujourd'hui, sur votre box, vous êtes fiché et donc vous êtes compté si vous regardez votre épisode non pas le jour de la diffusion mais 3 jours ou 7 jours après. voire certaines sociétés proposent aujourd'hui ce qu'on appelle des insertions publicitaires dynamiques, c'est-à-dire que si vous prévoyez, vous êtes une grande chaîne de supermarché, vous prévoyez de faire des annonces pour des grandes promotions qui auront lieu à un moment donné et que votre épisode il est regardé une semaine plus tard, votre promotion est passée. Et donc, on vous change la publicité pour avoir une publicité adaptée.
On a bien compris. Donc, les nouvelles façons de visionner les séries télé mettent à mal un système vieux de plus de 50 ans. Mais comment réagissent les chaînes de télévision?
Eh bien, si certaines chaînes, comme CBS par exemple, ne changent pas grand-chose, d'autres comme la Fox repensent leurs soirées, misent sur de l'événementiel, comme le retour d'X-Files par exemple, leur série culte des années 90. Mais la chaîne qui va bouleverser plus encore ses programmes à la rentrée, c'est NBC. C'est une chaîne qui a toujours été la première à faire bouger les lignes. Le passage du sponsor unique aux pages de publicité dans les années 50, c'était elle. La mise en avant des séries d'auteurs dans les années 80, bien avant HBO, c'était encore elle. Séverine Barthes revient sur les dernières annonces.
NBC a annoncé quelque chose d'assez nouveau sur sa grille pour l'année prochaine, qui est la mise en avant très massivement du live. Des émissions donc où l'on perd beaucoup si l'on les regarde en décalé. Ils vont aussi beaucoup proposer de comédies musicales captées en direct de Broadway, par exemple. Et donc là, faire de la programmation un peu exceptionnelle pour pousser les gens à regarder en synchronisé les programmes, avec beaucoup de choses qu'ils ont annoncées autour des réseaux sociaux et de comment faire monter les choses, puisque une des forces de la resynchronisation de la télévision, c'est d'appuyer sur Twitter et de faire de la télévision augmentée. Donc au niveau de NBC, qui a souvent été leader dans l'histoire de la télévision américaine, dans les grands changements de la télévision, on a ce curseur-là mis sur le live, qui donc va marquer un retrait un peu de ce qu'on appelle la télévision scriptée, c'est-à-dire la télévision avec scénario type série télévisée. C'est un peu un coup de poker. C'est assez rare à la télévision américaine, cet accent sur le live. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment regarder pour voir ce que ça donne.
Eh bien, on poursuit, Benoît, ce supplément week-end avec votre brève revue de la presse de la semaine. Et on commence par vendredi.
Oui, vendredi, le 22 mai dernier, c'était fini pour l'installation du pavillon islandais à la Biennale de Venise. L'artiste suisse Christophe Buchel avait ouvert 15 jours auparavant The Mosque, une vraie fausse mosquée recréée à l'identique dans une ancienne église déconsacrée. Et on a appris dans les pages du Figaro ce mercredi que finalement le lieu avait été fermé il y a une semaine. Les autorités qui semblaient perplexes devant, je cite, cette œuvre d'art virtuelle qui devenait un authentique lieu de culte, ont officiellement déclaré que c'est l'afflux de visiteurs qui mettait en péril ce lieu historique. Dommage pour un projet jugé pacifiste et qui profitait de la Biennale pour ouvrir le dialogue entre religion, culture et identité.
Mardi, c'était Salut Ami.
Dans les pages culture du quotidien Le Monde, le journaliste Patrick Labesse revient sur la 40e édition du festival Musique Métisse d'Angoulême, qui a salué le week-end dernier son fondateur, Christian Mousset, qui a annoncé qu'il passait le relais. Ce militant quitte 71 ans un festival pionnier dans, je cite, « l'accompagnement des musiques du monde de moins en moins relayé par les médias ». Et mardi, Le Monde relayé et salué celui qui a programmé pour la première fois en France Salif Keita, Johnny Clegg et Kassav. Christian Mousset était même allé chercher Johnny Clegg à Johannesburg après avoir découvert le chanteur sud-africain dans un article d'Actuel.
Et mercredi, c'était Rocky.
En page démontage de l'hebdomadaire Les Un Rock, revenez sur l'exposition de Sylvester Stallone, Rocky, une exposition proposée au MAMAC, le musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Nice. Cet article dédouane le MAMAC, puisque, je cite, toute l'équipe du musée a refusé d'accrocher les toiles et d'assister au vernissage. Et le journaliste explique que les toiles de Stallone sont, je le cite, des boucheries. Des peintures qui ne valent que par le nom de leur auteur. Et l'auteur, donc, Stallone himself, déclare, je le cite, « La peinture est la forme la plus authentique, la plus honnête de tous les arts, parce que c'est simple, ça ne pardonne pas. » Fin de citation.
Il n'a pas tort. Et aujourd'hui ?
Bien aujourd'hui, pour terminer cette revue de presse de la semaine, des tours du côté des chiffres publiés cet après-midi par le distributeur de presse Presstalis, qui distribue 75% de la presse française. Cette information a été relayée par l'AFP. Une étude donc, qui sera sans doute relayée dans les journaux ce week-end. Les ventes en kiosque de journaux et de magazines au numéro ont de nouveau baissé en 2014. 7,7% du nombre d'exemplaires vendus, même si le recul de ces ventes aurait partiellement été compensé par une hausse des prix liée aux parutions donc l'an dernier. Les quotidiens nationaux sont les plus touchés, une baisse de plus de 9%. Le recul est limité en revanche pour les magazines. Point positif quand même, la presse masculine augmente de 10% et la vente des magazines de sport augmente de plus de 2%.
Merci Benoît Laguenne. On se retrouve lundi, Benoît.
Tout à fait.
Vous aurez repris votre souffle.
C'est ça.
Vous êtes asthmatique ?
Non, non, pas du tout.
C'est moi. Jean-Louis Cohen, est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous font réagir ? Et je poserai la même question à Charles Jaff.
Je voudrais réagir à propos de la dernière brève, cette crise de la presse écrite, parce que je trouve que un des plaisirs de l'existence, qui est celui du rapport charnel au papier, est en train de se dissiper. Et personnellement, je vois ça avec une certaine tristesse. C'est tout.
Et la Biennale de Venise, avec l'installation de cette mosquée œuvre d'art dans une église reconvertie, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, quel regard ?
Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Je ne comprends pas la réaction effrayée, apeurée, timorée des organisateurs. Je trouve que c'est une forme d'autocensure ou d'intériorisation de la censure, évidemment moins grave que ce qui se passe au Maroc, où un film met l'accent sur ce qui est totalement notoire, c'est que le Maroc est pour une part un bordel pour une grande partie du...
Toute proportion gardée.
Toute proportion gardée, non, mais dans les conditions qui sont celles de Marrakech, qui sont celles de Tanger, peut-être éventuellement de Casablanca. Donc je trouve que la censure intériorisée à Venise est totalement déplacée.
Charles Jaff, est-ce qu'il y a un dossier, un sujet qui vous a marqué ? Est-ce que vous connaissiez l'œuvre de Sylvester Stallone comme peintre ?
Pas du tout.
Je m'en doutais un petit peu.
Oui.
Vous ne saviez pas du tout qu'il peignait ?
Non.
Il faut voir dans les pages des Inrecuptibles quelques reproductions, s'il y en a.
Il y a quelque chose dans le monde d'hier, je crois que je n'ai pas lu.
Qui était ?
Je ne l'ai pas lu.
Ah bon, d'accord. Alors on commence tout de suite.
Et en plus, il a dit quelque chose que la peinture est le plus honnête.
Je vais essayer de retrouver sa phrase exacte.
C'est la peinture ne pardonne pas. La peinture est très honnête. Voilà. C'est ce que disait Steve Stallone.
C'est simple, ça ne pardonne pas. Voilà.
Mmh. Oui. Simple. Et je ne sais pas comment il le sait.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau légende avec vous, Jean-Louis Cohen. Vous êtes architecte, historien et théoricien de l'architecture, ancien directeur de l'Institut d'architecture à l'origine de la Cité de l'architecture au Palais de Chaillot à Paris. Et vous publiez aujourd'hui Le Corbusier, l'architecture, j'aurais prononcé ce terme au moins une cinquième fois, comme chantier, c'est chez Textuel.
Non, la planète comme
chantier.
Ah oui,
la planète comme chantier chez Textuel. Au moment où on fête le 50e anniversaire de la mort de Le Corbusier, le livre est une mise à jour d'un essai qui était paru en 2005 et qui donne largement la parole à l'architecte franco-suisse, à ses notes, ses carnets, ses lettres, puisqu'il en a écrit plus de 7000 entre 1908 et 1965. On a 8 chapitres de sa naissance en Suisse, à sa mort en juillet 1965, puisqu'il meurt frappé par une attaque cardiaque alors qu'il nage au Cap Martin. Entre-temps, il y aura le voyage en Toscane, la revue Esprit, Nouveau, Alger, Buenos Aires, la création de la ville de Chandigarh, bien sûr. Mais vous ouvrez d'abord, et c'est intéressant, sur son apparence physique. Les lunettes mobiles, le pardessus noir, quelque chose qui va rester comme une sorte d'uniforme pour les architectes qui se veulent avoir l'air moderne. Qu'est-ce que cette apparence dit de lui ? Qu'est-ce qui vous frappe ?
Alors, cette apparence, elle était tellement frappante que les publicités qui s'adressaient aux architectes dans certaines revues européennes des années 30 présentaient des clones de Le Corbusier avec les mêmes lunettes rondes, le même nœud papillon. Lorsque Le Corbusier est allé à Moscou, on lui reproche beaucoup en ce moment d'être allé à Vichy, mais il a commencé par aller à Moscou. Lorsqu'il est allé à Moscou en 1928, la Pravda a publié un article qui disait qu'il était l'image même de l'homme nouveau. Donc, je dirais que c'est cette uniforme d'un architecte qui n'était plus un artiste, mais qui était presque qui était un globe-trotter, qui était un homme d'affaires, qui était quelqu'un d'efficace et au courant des réalités du monde, quelqu'un d'éminemment nomade que Le Corbusier a projeté en construisant extrêmement consciemment son image. Il changera d'ailleurs d'image. Et j'ai reproduit quelques vues de la période tardive dans son atelier avec sa chemise de bûcheron américain à carreaux. Il se donnera plutôt l'image d'un homme des bois pour essayer d'effacer cette espèce d'adhésion à la machine avec laquelle il commence à prendre ses distances dans cette période. Donc c'est quelqu'un qui associe de moderne des décennies avant que les architectes soient sur les plateaux des télévisions. Il a ceci de moderne, qu'il a compris l'importance des médias, qu'il en a joué, qu'il s'est propulsé vers les médias, ces médias imprimés qui disparaissent aujourd'hui, la radio, le film, la télévision précoce.
Il est à Paris en 1920 quand il change aussi de nom, pas simplement d'apparence, mais de nom. Il était Charles-Édouard Jeanneret et il devient Le Corbusier. Un changement qui correspond à un moment précis de son parcours.
Alors, il est assez intéressant de voir que certains des architectes majeurs de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement moderne ont des problèmes avec leur identité. Frank Lloyd Wright s'est vieilli de 2 ans. Mies, qui trouvait que son nom, qui signifiait en fait médiocre, nul en allemand, n'était pas à la hauteur et l'a anobli pour se faire appeler Mies van der Rohe. Pour Le Corbusier, c'est différent. Le Corbusier naît Charles-Édouard Jeanneret. Il décide de conquérir Paris en 1920 en menant une offensive tous azimuts. Il faut bien voir qu'en quelques années, il publie 5 ou 6 livres. Ouais. Il commence à peindre des dizaines de tableaux, pour certains intéressants, pour certains importants. Il construit, il fait des conférences, il écrit, correspondance extrêmement abondante avec d'innombrables interlocuteurs, et il fonde une revue avec Amédée aux enfants, un peintre qui sera un de ses gourous, et comme tous ses gourous antérieurs, son maître... En Suisse, Auguste Perret, l'architecte du béton armé, Peter Behrens, son maître à Berlin, il reniera aux enfants. Mais non sans avoir appris aux enfants comment développer une stratégie de séduction à Paris, qu'il définit d'ailleurs dans une lettre de 1920 comme étant pour lui un grand laboratoire. Donc changer son nom, c'est important parce que il écrit la quasi-totalité, avec les enfants, la quasi-totalité des articles dans l'Esprit Nouveau, et il veut séparer son activité de professionnel de son activité d'homme public. Voilà pourquoi il s'invente ce pseudonyme.
Manu Farine.
À propos de changement d'identité, voire de contradiction même parfois, Jean-Luc Cohen, vous écrivez qu'il commence les années 30 plutôt à droite et finit clairement à gauche. Comment ce mouvement-là va se traduire en termes d'architecture? Qu'est-ce qui va motiver ce glissement?
Alors, les positions politiques de Le Corbusier, qui n'a jamais été affilié à un parti,
comme qualifié
n'a jamais
de naïve, hein, d'ailleurs,
de responsabilité publique, sont, selon les cas, naïves, opportunistes, en tout cas zigzagantes. Donc, il est plutôt, il dit en 1914 qu'il était socialo, qu'il est devenu nationaliste, c'est en Suisse, parce que la municipalité socialiste de La Chaux-de-Fonds a fermé l'école ou le cours où il enseignait. Par la suite, il sera très proche du patronat et des cercles qui plaident pour des réformes autoritaires. Donc, si quelque chose peut caractériser ses positions, c'est une sorte de méfiance, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de la démocratie. Et donc, il croit reconnaître tour à tour en Staline, en Mussolini, en Léon Blum, qu'il courtise en 1936, les dirigeants qui sont attachés à changer le monde et qui vont faire appel à lui. Au cours des années 30, on le voit au fil de ses amitiés, aussi sous l'influence des gens de son entourage, Charlotte Perriand, l'architecte d'intérieur, son associé Pierre Jeanneret, qui sont fondamentalement à gauche, on le voit véritablement se déplacer. Il est totalement aux côtés de l'Espagne républicaine, pour beaucoup de raisons, avant de penser, comme beaucoup, que Vichy allait faire les réformes que les années 30 n'avaient pas su faire en France.
Charles Jaffé, tout à l'heure, quand je suis entré dans le studio, j'ai vu que vous cherchiez quelque chose de précis dans le livre, dans l'essai de Jean-Louis Cohen. Et tout à l'heure, vous lui avez dit, ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous cherchiez dans cet essai et qu'est-ce que vous avez trouvé?
Quelque chose sur aux enfants. Parce que j'ai visité l'expo et les artistes avec qui Corbusier a travaillé sont mentionnés comme noms, mais pas avec aucune information sur leur vie. Et j'ai même, comme je viens de vous le dire, j'ai demandé s'il y a un livre sur aux enfants qui a fait une école à New York. Et il n'y a pas aucun livre dans la librairie à Beaubourg.
il y a un livre
Jean-Louis Cohen,
Beaubourg n'a pas, qui est un très beau livre de Françoise Ducrot,
oui.
Qui est une biographie très bien illustrée à propos de enfants qu'une haine inextinguible va opposer à Le Corbusier après leur divorce intervenu en 1925. Donc les deux compères ne se parleront plus ou seulement de manière extrêmement mordante dans les décennies qui suivront.
Quel est votre regard à vous, Charlie Jaffet, qui êtes peintre, sur l'œuvre de Corbusier, son œuvre peut-être de peintre, mais aussi son œuvre d'architecte? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pas que
moi,
du bien.
Non, c'est pas ça. Les maisons sont très beaux à regarder.
Oui.
De l'extérieur.
Oui.
Mais je n'ai pas eu l'impression... Quand je suis venu en France, je suis allé à Marseille parce que c'était, le média était si fort que c'était nécessaire de savoir. Et j'étais très déçu par le bâtiment à Marseille parce que moi, qui a vécu dans les appartements, a trouvé qu'il a organisé la vie des gens qui a habité dans ces maisons avec une rigueur et un manque d'imagination pour l'indépendance des gens.
Jean-Louis Cohen?
Alors,
à cette critique.
À propos de la cité radieuse.
Je crois que l'unité d'habitation de Marseille, dont Charlie vient de parler, est un bâtiment qui était un bâtiment polémique. C'est un bâtiment expérimental, construit dans les conditions de la reconstruction, mais malgré tout un bâtiment dans lequel les habitants, qui ne sont plus les sinistrés d'origine, mais sont des psychanalystes, des professeurs d'université, des historiens de l'architecture, non, c'est pas bobo, c'est franchement bourgeois, tout à fait heureux. Et les étudiants qui ont fini par repeupler l'unité d'habitation de Firmini, qui à un moment donné était pratiquement abandonnée et qui heureusement a été redéployée vers un autre marché, comme diraient les agents immobiliers, sont aussi fort heureux. Donc je crois que ces logements n'apportent pas la seule solution, mais partent d'un certain nombre d'hypothèses sur l'idée de l'ampleur intérieure de l'espace de l'habitation, du séjour, un certain nombre d'idées autour du groupement des chambres des enfants. Ce sont des logements qui proposent qui cadrent des vues magnifiques sur le paysage. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut bien les considérer comme un moment expérimental, assez hardi et d'une très grande beauté plastique. Je crois que personne ne peut le nier. En dépit de l'aspect rugueux, austère du béton brut de décoffrage que l'on a reproché maintes fois Le Corbusier.
Mais justement, pourquoi dans l'exposition que vous lui aviez consacrée au MoMA, vous aviez évacué technologie et béton armé, Jean-Louis Cohen?
Je n'avais rien évacué du tout. J'ai, dans une grande exposition du Musée d'Art Moderne, pris un parti,
ouais,
qui était de parler du rapport de Le Corbusier au paysage. Donc, aujourd'hui, plus personne ne peut imaginer faire une exposition générale. En 1987, avec Bruno Reichlin, organisé l'exposition du centenaire de sa naissance au Centre Pompidou sur le cinquième étage tout entier, donc 2500 m². Plus personne ne peut faire ça aujourd'hui, les prêts sont trop coûteux, c'est compliqué, donc il n'est pas possible d'avoir une démarche encyclopédique vis-à-vis de Le Corbusier. D'ailleurs, mes collègues du Centre Pompidou ont choisi un parti qui est de parler de la question de la proportion, de son rapport à la stature humaine, qui est un parti parfaitement légitime et très bien déployé. J'en avais pris un autre qui était de dire qu'alors que Le Corbusier est considéré comme quelqu'un qui n'avait eu que mépris pour le paysage, qui avait posé ses bâtiments en se moquant pas mal de ceux qui les entouraient. Au contraire, il avait été obsédé par ce rapport au paysage et qu'il avait, sa vie durant, et notamment dans le cas de Marseille, reproduit ou cherché à reproduire des paysages qu'il avait marqués dans ses voyages de jeunesse, dont je parle dans La planète comme chantier. Exemple, on peut considérer qu'un des paysages structurants pour lui a été celui de l'acropole d'Athènes. Et que Marseille, pour lui, c'était, comme son premier tableau d'ailleurs, le point d'aboutissement de sa réflexion sur l'acropole d'Athènes, c'est-à-dire un prisme situé entre la mer et les montagnes, et parlons aussi, si l'on veut, de l'acropole que représente Ronchamp. Donc, c'est à ces thématiques, à cette espèce de récurrence de ces souvenirs paysagers que je m'étais attaché, et le béton était tout au plus qu'un moyen d'action pour réaliser ces projets.
Et nous ?
Donc on l'a compris, Jean-Luc Cohen, vous avez le Corbusier, disons, vous a beaucoup occupé. Hein, vous avez signé plusieurs expositions, dont celle de Beaubourg, celle du MoMA en 2013, des dizaines d'articles, plusieurs ouvrages. Qu'est-ce qui a changé dans votre propre lecture et votre propre compréhension du Corbusier depuis vos premiers travaux, disons, à la fin des années 70 ?
Alors, ce qui a changé, ce qui est tout à fait remarquable à propos de Le Corbusier, c'est qu'il n'a pas ou fort peu purgé ses archives. Donc, on peut, au travers de sans doute 1,5 million de documents conservés à la Fondation Le Corbusier et d'autres dans d'autres archives, au travers de ses dessins, de ses manuscrits, etc., reconstituer presque heure par heure ses choix, ses lubies, ses expériences, ses déceptions. Et ce qui permet de voir en lui un personnage à la fois, je dirais, irritant, le donneur de leçons, le prédicateur, sur la fin de sa vie, et c'était le sens de l'extrait sonore du début de l'émission, on sent en lui le paysan jurassien bougon, considérant qu'il a tout raté, qu'on l'a très très maltraité, ce qui est largement exagéré. Donc moi, ce qui me touche en lui, ce sont ses contradictions. C'est l'opposition entre la dimension prophétique irritante et pour laquelle il ne cessera de chercher les alliés les plus douteux, et la dimension poétique qui nous touche à Ronchamp, aux maisons Jaoul, dans les villas des années 20, dans ses premiers chalets boîte à cigares de la Chaux-de-Fonds. Donc c'est pour moi l'être contradictoire que je trouve intéressant.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé, dans Jean-Louis Cohen, de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son, Jean-Louis Cohen, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Le Bœuf sur le toit de Darius Milhaud, composé, si je ne m'abuse, en 1919, qui a servi aujourd'hui, dirait-on, de bande-son, de musique pour un spectacle de 1920, qui est une musique que Darius Milhaud a composée à partir de ses expériences brésiliennes, et donc j'y vois là un lien avec celle qu'aura Le Corbusier 10 ans plus tard, qui vont le marquer fondamentalement, notamment dans son rapport au paysage. Je pense à Rio, je pense ensuite à d'autres aventures. Donc c'est aussi cette musique du Paris des années 20 dans lesquelles ce Paris que Le Corbusier essaye de séduire au contact avec les musiciens modernes. Il publie, si je ne m'abuse, un texte de Honegger dans l'Esprit Nouveau et lui-même s'intéresse beaucoup à la musique dans cette période.
Le rendez-vous, la chronique.
Jean-Luc Cohen, Charles Jaff, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du vendredi, l'apparition de Thomas Clair, attendue par nos internautes et nos auditeurs. La revue d'aujourd'hui, ce sera le Journal des Arts, ça tombe bien. Vous le faites chaque fois exprès.
Oh, j'essaie une cohérence. Eh bien, elle paraît un vendredi sur deux, cette revue, et elle propose l'actualité de l'art et de son marché à travers le monde pour une somme assez raisonnable. On est loin des Femmes d'Alger de Picasso, le plus cher tableau du monde désormais, adjugé 179 millions de dollars. Eh bien, vous pouvez vous l'offrir en reproduction, page 25, pour la modique somme de 5,90 €. Le Journal des Arts, d'un format 40 par 28, en papier souple, il se plie aisément, comme une sorte de quotidien dont il possède d'ailleurs le sérieux. C'est une lecture très agréable, au demeurant, 36 pages, qui n'ont pas vocation à vous assommer, c'est une revue d'actualité, d'informations loin de tout esbrouf. Elle est encore jeune, pourtant, née en 94, mais elle n'a plus rien à prouver, hein, comme s'il était devenu aussitôt une référence, et son succès l'atteste. Alors son secret, eh bien, c'est un professionnalisme qui se contente d'être ce qu'il est, ils font le job, comme on dit, englobant style et problématiques multiples, à la différence d'une revue de lignes comme Art Press, par exemple, eh bien, l'art dans le Journal des Arts n'est pas que l'art contemporain, c'est beaucoup plus global, c'est une offre complète. Alors, que trouve-t-on dans ce numéro? Eh bien, par exemple, une enquête instructive sur les boutiques de librairies dans les musées, où l'on en prend, sans surprise, le recul du livre au profit d'un merchandising de trousses, de crayons, d'essuie-lunettes et autres cahiers vendus 15 fois le prix de base. Les produits images, comme on dit, ont un profil parlant. À la boutique du musée du Louvre, quelles ont été les meilleures ventes 2014? 1. Les cartes postales Joconde. 2. Les magnettes Joconde. 3. Les marque-pages Joconde. Qui parle de standardisation? Il est vrai que le chiffre des tongs Joconde n'est pas donné. Il est possible qu'il dépasse les cravates Van Gogh, mais vous le saurez, page 18. Alors, à côté d'enquêtes bien documentées et bien écrites, il faut le signaler, sur l'exposition universelle de Milan, la mort de Chris Burden, le nouveau festival du Centre Pompidou, ou plus modestement, les rencontres internationales de photos à Niort, dans les Deux-Sèvres, eh bien, le Journal des Arts offre à son lectorat un choix des plus larges, refusant une approche de niche. Pourtant, bien que sa mission soit informative, c'est un journal qui n'est pas loin s'en faut dépourvu d'un regard critique. Derrière son décor feutré, marqueté, on est entre gens de bonne compagnie, eh bien les escarmouches ne manquent pas, car la langue classique ne signifie pas forcément la langue de bois. Ainsi, on appréciera le reportage assez relevé sur l'exposition universelle de Milan et son thème pénible « Comment nourrir 9 milliards d'hommes, enfin d'êtres humains, en 2050 ?» La réponse était simple, en arrêtant de procréer. Mais les pavillons ont préféré se transformer en espace dégustation destiné à la promotion de leur gastronomie nationale. L'espace d'exposition d'ailleurs Arts and Food est aussi indigent qu'indigeste, et la reproduction d'une excellente pièce pop de Oldenburg représentant une énorme fourchette de spaghettis, eh bien le signe, selon le critique, d'une instrumentalisation de l'art à des fins, c'est le cas de le dire, lourdement écologiste. Il y a d'autres choses également polémiques, une chronique d'Éric Fessy sur la grève à Radio France d'ailleurs, une critique architecturale du pavillon français de Venise par notre invité de ce soir, une attaque de Le Corbusier par Christian de Porzamparc. Bref, le lecteur a de quoi se mettre divers matériaux sous la dent de sa curiosité. Donc, élégance de plume, esprit critique, le Journal des Arts manie deux traditions bien françaises. On peut le vérifier à contrario en lisant l'entretien d'un collectionneur indonésien qui a le costume de son rôle, veste sombre, chemise blanche et Nike aux deux pieds. Et celui de son verbe lisse. En effet, le journaliste lui demande « Pensez-vous que l'image de l'Indonésie soit ternie après la récente exécution d'étrangers impliqués dans des affaires de drogue ?» Voici ce qu'il répond « C'est une loi nationale que je ne peux pas critiquer en tant que citoyen indonésien, mais en même temps, en tant que chrétien, je dois être d'accord avec la Bible qui stipule que vous ne pouvez pas faire cela. Il est donc très difficile d'avoir un jugement. »
Il avait deux nailles aux pieds, hein. C'est ça.
On ne lui en demandait pas tant d'avoir un jugement, en tout cas. Mais puis, comme il déclare, les jeunes artistes chinois sont trop conservateurs, on a envie de lui répondre « Les conservateurs indonésiens ne sont pas assez artistes. » Bref, le Journal des Arts est vivant, à l'image du portrait assez incisif de Paul-Hervé Parsi, qui dirige la villa Cavrois. Il appartient, dit-on, au système, mais il a toujours recherché les chemins de traverse. Et tout à coup, cette phrase m'est apparue eh bien, comme l'emblème en abîme de la revue du Journal des Arts.
Magnifique analyse. Jean-Louis Cohen, un commentaire sur cette revue dans laquelle, manifestement, vous officiez?
Non, je n'officie pas. J'ai apparemment été... l'objet ou la cible d'un article, je ne sais pas.
Oh, pas vraiment, mais en fait, vous dites que le pavillon français à la Biennale de Venise est l'un des pires, tellement médiocre et si difficile à occuper. Ah, comme l'a noté Jean-Louis Cohen.
Ah oui, je parlais du bâtiment. Oui, c'est notoire. Les Français ont, pour des raisons très précises, les Français ont le pavillon national le plus affligeant à Venise par pur mépris. Parce qu'en 1911, lorsqu'il leur a été demandé de construire un pavillon permanent, ils considéraient que cette Biennale n'avait aucun sens, et que Paris, capitale des arts, des lettres et des sciences, n'avait aucune attention à y porter. Et donc, plutôt que d'aller chercher une pointure de la profession de l'époque, ils ont fait construire le pavillon par l'ingénieur municipal Fausto Finzi, qui en a fait un édifice assez ridicule. Et en vérité, puisque j'ai tenté d'y construire la présence française lors de la Biennale de Rem Koolhaas l'année dernière, la Biennale d'architecture, et je dois dire qu'il est fort difficile à utiliser. Je le pressentais, je m'en suis sorti plus ou moins bien, mais en tout cas, ça n'était pas facile.
Le rendez-vous.
Plateau Abstraction avec vous, Charlie Jaffe, peintre américaine installée en France depuis 1949. Une peinture placée sous le signe du rythme de la composition, de la découpe, de l'assemblage et de l'instabilité. Pour être plus clair, ça va pas l'être plus clair. Des tableaux abstraits qui font cohabiter des événements formels, carrés, cercles, mais aussi des formes géométriques, moins répertoriées, parfois organiques, et puis des gribouillages quelquefois, souvent sur fond blanc, mais pas toujours. Une autre façon pour vous de continuer l'expressionnisme abstrait, c'est ce qu'on apprend dans le catalogue, puisqu'il y a un entretien qui est cité. Vous arrivez en France en 1949, avec votre mari à l'époque, vous aviez suivi des études d'art aux États-Unis. Quel peintre étiez-vous quand vous arrivez en France, Charlie Jaffe?
J'ai voulu faire la peinture, mais je ne crois pas que j'étais un peintre formé.
Donc, un peintre en devenir quand vous arrivez en France.
Oui.
C'est donc en France que vous allez manifestement devenir peintre.
J'ai toujours peint. J'ai eu une histoire de, dans une école, à Cooper Union. Et après, j'ai voulu voir tout ce qu'il y a dans la scène artistique quand j'ai venu ici. Et c'est ça que j'ai fait.
Manu.
La France était déjà un peu présente hein, dans votre imaginaire de peintre, Shirley Jaffe, avant d'arriver, notamment, je crois, avec une rétrospective Pierre Bonnard que vous aviez vue en 1948.
Oui.
Qu'est-ce qui vous avait tant touché à l'époque dans cette exposition ?
L'expo était vivant. C'était coloré, vivant, avec une intensité formée. Et ça m'a touché beaucoup. Et aussi, il y a au Musée d'Art Moderne de New York, il y a les autres peintres qui étaient très, très intéressants. Mais quand j'ai venu ici, c'était plutôt les artistes qui était dans les rues, qui a peint. Et j'ai visité les ateliers partout. De voir qu'est-ce qu'il y a qui était vivant à voir.
Il y a dans votre peinture un moment de bascule, véritablement, c'est 1968-1969. Vous passez d'une peinture abstraite très gestuelle, qui était celle de vos contemporains à l'époque, à une abstraction personnelle qui va travailler la géométrie. Et ça s'accompagne d'un changement d'environnement, parce qu'à l'époque, vous soulouiez un atelier-appartement à Louise Bourgeois, rue Daguerre, à Paris, et puis vous allez vous retrouver dans un atelier, mais dans le 5e arrondissement. Est-ce que ce changement d'atelier a eu un impact sur votre peinture ?
Non. plutôt à Berlin que j'ai pensé que mon abstraction n'a pas eu un futur. Que pour moi, je n'étais pas concentrée sur moi, qu'est-ce que je veux, je sens. J'ai voulu avoir une idée, qu'est-ce que je veux faire. Comment est-ce que je veux que les gens voient? Donc, c'est un virement sur mon intention.
Qu'est-ce qui
J'ai eu la possibilité de le faire à Berlin parce que j'étais. Il y a les autres artistes, mais moi, j'étais plutôt seul où je peux réfléchir.
Jean-Luc Cohen, j'imagine que vous connaissez la peinture de Shirley Jaffe.
Oui, je suis très touché par cette peinture. C'est une peinture dans laquelle je vois beaucoup de, je lis beaucoup de récits visuels, de récits graphiques. Les aventures des formes, de formes qui sont là pour elles-mêmes, de formes qui sont plus figuratives. J'y vois aussi des rencontres. J'ai l'impression que Matisse rencontre Stuart Davis ou Roy Lichtenstein par moment. Donc je trouve que Shirley fait dialoguer ses peintres et en élaborant sa propre voix. Donc je trouve que c'est une peinture très, très riche, dans le même temps extrêmement optimiste. Je trouve que c'est une peinture qui est pleine de joie de vivre et cela me touche beaucoup.
Optimiste, c'est quelque chose qui vous intéresse, je crois, Shirley Jaffe. Parce que c'est un adjectif que j'ai vu que vous adressiez à la peinture de Matisse, par exemple.
Matisse est venu plus tard pour moi. C'était pas le. C'est quand j'ai vu ces papiers au musée d'art décoratif que j'ai eu une énorme appréciation pour lui, mais pas avant. Et cette... qu'est-ce que je peux vous dire? Stuart Davis n'était pas un peintre que j'ai vu à New York avant de venir ici.
Ah oui.
C'est seulement... Et j'ai compris que peut-être la vision de la France qu'il a eue est quelque chose que je vois aussi. Mais ça, c'est venu après.
D'accord.
Et j'étais plutôt influencé par les cubistes.
Les cubistes qui faisaient partie de votre formation, je crois, justement.
Un peu.
Ouais, à New York.
Vous dites d'ailleurs, Shirley Jaffe, que la question de l'abstraction ne se pose pas de la même manière aux États-Unis et en France. Qu'est-ce qui pourrait justement en distinguer les appréciations?
Je ne sais pas comment je vais répondre.
Alors, peut-être qu'on peut poser la question d'une autre façon. Comment Simon Hontaï, ou plutôt Sam Francis et John Mitchell, c'est-à-dire les peintres de l'abstraction gestuelle, que vous fréquentiez à l'époque, qui étaient aussi exposés dans la même galerie que vous, c'est-à-dire chez Jean Fournier, ont regardé votre changement de position? Est-ce qu'ils ont compris ce qui se passait pour vous?
Non. Non, c'était évident. Mais parce que les choses que j'ai faites, c'était presque une critique d'eux. Et peut-être ils l'ont compris. Je ne crois pas que moi je l'ai vu comme ça. C'est une direction pour moi de continuer à peindre avec ma propre idée. Mais ils ont vu comme un rejet.
Manu.
Comme à tous nos invités, Shirley Jaffe, cette saison, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez suggéré.
Mais c'est pas mal.
C'est pas mal.
Alors c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on entend, Shirley Jaffe?
Je me demande.
Alors, c'est Betsy Yolas, en fait. Vous aviez demandé une composition de Betsy Yolas.
Je l'ai connue à un moment donné. C'est aussi une femme musicienne qui est américaine, qui a eu les liens avec la France. Et où j'ai entendu ses œuvres au même moment que j'ai entendu le atonal, la musique atonale. Et j'ai pensé que c'était pas mal de faire jouer elle en même temps que je suis ici.
Est-ce qu'il y a un rapport entre la découverte de cette musique contemporaine et l'évolution de votre peinture? Peut-être du domaine de privilégier la composition au geste?
Non, c'est la tonalité qui est inventive. Et ça m'a poussé de... j'ai aimé ça.
Une autre question, juste une question par rapport à ce que vous faisiez aussi dans les années 60. Je sais que vous preniez pas mal de photos de Paris en noir et blanc. On les voit dans le catalogue qu'on a ici.
Oui.
Je me demandais à quel moment est-ce que vous avez continué à faire ces photos et quel rapport elles avaient avec votre peinture?
Quand j'ai commencé à changer légèrement la direction de mes tableaux, j'ai voulu que les autres gens autour de moi puissent le comprendre. Et j'ai pris les photos de presque imposer une autre façon de voir le monde. Et j'ai pris les photos.
Vous avez arrêté à quel moment de prendre des photos?
Ils ne me servent pas pour le moment. Quelquefois, je vois quelque chose quand je marche dans la rue. Mais une photo ne m'aide pas. Et pour les autres, je ne crois pas que c'est nécessaire.
Le rendez-vous, la session.
Charles Jeff, Jean-Louis Cohen, Thomas Clair, on va se quitter dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la session du vendredi. Une session électro de chambre, comme on peut l'entendre derrière, parce qu'ils sont en train de se préparer. Elsa Béranger.
Alors, difficile à résumer, c'est plutôt une musique inclassable. Le Chapelier Fou est d'abord passé par le classique. Il entre au conservatoire dès l'âge de 6 ans et se fait multi-instrumentiste. Virage à 180 degrés quand il découvre l'informatique et sample des phrases du Chapelier Fou sur des disques d'Alice au Pays des Merveilles. C'est d'ailleurs suite à cela qu'il adopte son nom de scène. Chapelier Fou aime les compositions instrumentales. Il mêle l'électro aux instruments acoustiques, le plus souvent à cordes. Il vient ce soir à l'occasion de la sortie de son dernier EP, Fuse, paru sous le label Ici d'ailleurs. Ce soir, le Chapelier Fou est venu avec tous ses amis, pas que imaginaires. Saucisse au violoncelle, Chaton à l'alto et Matou à la clarinette basse. En direct du Studio 108, ils sont venus nous interpréter Fuse. Eh bien les amis, c'est à vous.
Merci.
C'était Chapelier Fou, le titre Fuse est extrait de son dernier album, son dernier EP paru sous le label Ici d'ailleurs. Je rappelle que votre dernier album Delta, lui, est sorti il y a quelques mois et est disponible sous le même label. Et je signale que vous serez en concert vendredi prochain à Bulligny dans le cadre du festival JDM et le 21 juin à Chigny en Belgique pour la fête de la musique. Toutes les autres dates sont à consulter sur le site de l'émission.
C'est un coloré vivant.
Et cela me touche beaucoup.
Et ça m'a touché beaucoup.
Merci à nos invités. Jean-Louis Cohen, Le Corbusier, La Planète comme chantier. C'est aux éditions textuelles. Charlie Jaffé, je signale que votre monographie a paru aux éditions Flammarion. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Aïssat Wenda et Elsa Béranger. Journal de la culture, supplément week-end, Benoît Lagan et Zoé Sfez. Chronique Thomas Clerc, à la prise de son Jacques Azubert et Bruno Gagnard-Fontani. Et à la réalisation Thomas Beau.
Ça, c'était pour aujourd'hui et demain. Eh bien, demain, il faudra attendre lundi. Ce sera une émission doigtée avec le harpiste Emmanuel Cesson et la romancière Bélina Cannon. Il est 19h55, vous êtes sur France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.